Chapitre 2. Suite de l'ouverture sur une clé mineure. Woking, 7 juin. Ma très chère Maude, combien je souhaite que vous soyez ici, car j'ai été bas, 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 tout le jour, dans l'état le plus profond de découragement. Je désirais ardemment entendre le son de votre voix ou sentir le contact de votre main. Pourquoi cet abattement, alors que dans 3 semaines, je serai le mari de la plus charmante jeune fille d'Angleterre? C'est ce que je me demande, et la réponse qui se présente, c'est que c'est justement à cause de cela que je sens les morsures de ma maudite conscience. Je sens que je n'en ai point usé honnêtement avec vous, je vous dois réparation, et je ne sais que faire. Dans votre dernière lettre si chère, vous vous accusez de frivolité. Frivole, vous ne le fûtes jamais. Mais je l'ai été frivole, car du premier jour où j'ai appris à vous aimer, j'ai été si complètement enveloppée dans mon amour et mon bonheur devant tout ce qui m'entourait, que je n'ai jamais envisagé en face les fêtes prosaïques de la vie, ni discuté avec vous les nécessités qui résulteront de notre mariage. Et maintenant, à cette 11e heure, je me rends compte que je vous ai amené, sans vous rien apprendre, à un acte qui peut-être fera voile devant le rayonnement du soleil de votre vie. Que puis-je offrir en échange du sacrifice que vous allez faire pour moi? Moi, mon amour et tout ce que je possède, mais que c'est peu tout cela! Vous êtes une jeune fille, comme on en trouve 15 sur 1000, sur 10 000, brillante, belle, charmante, la plus aimable de tout le pays. Et moi, je suis un homme ordinaire, peut-être suis-je à peine cela, avec un passé qui ne mérite guère de mention et de vagues ambitions pour l'avenir. C'est un pauvre marché pour vous, un marché bien misérable. Il en est encore temps pour vous. Comptez ce qu'il vous en coûte, et si vous trouvez que c'est trop, retirez votre parole, sans avoir à craindre de ma part une seule parole, une simple pensée de reproche. Votre existence entière est en jeu. Puis-je vous imposer une décision prise avant que vous vous soyez rendu compte de ce qu'elle signifiait? Maintenant, je vais mettre les fêtes sous vos yeux, et alors, quoi qu'il arrive, ma conscience sera en repos et j'aurai la certitude que vous agissez les yeux ouverts. Vous avez à comparer votre vie telle qu'elle est et telle qu'elle sera. Votre père est riche, ou du moins possède une grande aisance, et vous avez été habitué toute votre vie à avoir ce que vous désiriez. D'après ce que je sais de la bonté de votre mère, je me figurerai qu'aucun de vos désirs n'est resté sans être satisfait. Vous avez vécu dans le bien-être, dans un intérieur charmant, avec un beau jardin, votre colis, votre canarie, votre bonne. Et par-dessus tout, vous n'avez jamais eu d'inquiétude, jamais aucun tracas au sujet du lendemain. Je puis me représenter si bien votre vie passée. Le matin, vous faites de la musique, vous chantez, vous jardinez, vous lisez. Dans l'après-midi, vos devoirs sociaux, les visites que vous faites, qu'on vous fait. Dans la soirée, le tennis, une promenade, encore de la musique, votre père qui revient de la cité, le recercle familial et, de temps à autre, un dîner, un bal, le théâtre. Et cela va sans frottement, les mois succédant aux mois, les années aux années, votre caractère plein de douceur, de bienveillance, de joie, votre figure animée faisant le bonheur de tout ce qui vous entoure et réagissant aussi sur votre propre bonheur. Pourquoi vous tourmenteriez-vous à propos d'argent? Cela regardait votre père. Pourquoi vous donnez de la peine pour les affaires domestiques? Cette tâche est celle de votre mère. Vous viviez comme les oiseaux et les fleurs, vous n'aviez aucun motif pour vous préoccuper de l'avenir. Tout ce que la vie peut offrir, vous l'aviez. Et maintenant, il faut que vous tourniez vos regards sur ce qui vous attend, s'il vous plaît encore d'affronter l'avenir avec moi. Une situation, je n'en ai point à vous offrir. Quelle est au juste la situation de la femme d'un sous-comptable de l'Office coopératif d'assurance? Il est impossible de la définir. Quelles sont mes chances d'avenir? L'emploi de comptable principal, peut-être. Si Druton meurt, et j'espère que non, car c'est un excellent garçon, j'hériterai probablement de son poste. En dehors de cela, je n'ai pas d'autre carrière. J'ai quelques aspirations littéraires, j'ai écrit quelques articles de critique dans les magazines mensuels, mais je ne suppose pas que ces aspirations puissent jamais aboutir à quelque chose d'important. Et mes appointements ? 400 livres par an, avec une commission sur les affaires apportée par moi. Mais cela ne vaut guère la peine d'en parler. Vous avez 50 livres. Dès lors, notre total est certainement au-dessous de 500 livres. Avez-vous réfléchi à ce que cela signifie de quitter la charmante maison de Saint-Alban, avec sa salle à manger, sa salle de billard, la pelouse, et d'habiter une petite maison à 50 livres par an, à Woking, avec ses deux salons et son jardin grand comme un mouchoir de poche? Ai-je le droit de vous demander de faire cela? Puis c'est la maison à tenir, les plans qu'on fait pour avoir de l'ordre, pour se limiter, pour sauver les apparences, avec un revenu borné. Je me suis trouvé malheureux tout à coup parce que je sens qu'en m'épousant, vous n'avez aucun soupçon de la longue et fatigante lutte pour monter la côte qui vous attend. Oh Maud, ma chère Maud, je sens que vous faites pour moi un trop grand sacrifice. Si j'étais un homme, je vous dirais, oubliez-moi, oubliez tout cela, que nos relations soient un chapitre sans issue de notre vie. Vous pouvez faire mieux. Moi et mes soucis, nous arrivons comme un banc épais de nuages pour intercepter la lumière du soleil sur votre jeune existence. Vous, si tendre, si mignonne, puis-je me faire à l'idée de vous voir en proie aux brutalités, aux soucis sordides, perpétuels d'un pareil ménage? Je songe à vos grâces, à vos jolies petites façons, aux élégances de votre vie et à la manière charmante avec laquelle vous les portez. Et je mets à profit la bonne fortune qui m'a gagné votre amour pour vous entraîner en bas, pour détruire la beauté et le charme de votre vie, pour la peupler de petits et vulgaires soucis qui ne finissent jamais et qui sont mortels pour l'âme. Égoïste animal que je suis, pourquoi consentirais-je à vous laisser descendre dans les misères et les tourments de l'existence alors que je vous ai trouvé tellement au-dessus d'elle? Et que puis-je vous offrir en échange? Voilà les pensées qui me viennent et me reviennent tout le jour et me laissent dans l'état le plus sombre de découragement. Je vous ai avoué que j'avais des moments d'humeur noire, mais je n'en eus jamais comme celui-là. Je ne souhaite pas à mon pire ennemi d'être malheureux comme je l'ai été aujourd'hui. Écrivez-moi, Maud, ma chérie, et dites-moi votre pensée la plus intime à ce sujet. Ai-je raison? Vous ai-je demandé trop? Le changement vous fait-il peur? Vous recevrez cette lettre dans la matinée et je puis avoir la réponse par le courrier du soir. J'irai au devant du facteur. Combien il me faudra d'efforts pour ne pas lui arracher la lettre ou pour me contenir? Wilson est venu m'assommer de sa sotte conversation pendant que j'avais l'esprit uniquement occupé de nos affaires. Il a fini par me mettre dans un état d'esprit tel que je serais capable d'un homicide, mais je crois que je n'ai pas cessé de sourire, que je n'ai pas manqué de politesse avec lui. Je me demande ce qui vaut le mieux, de la politesse unie à l'hypocrisie ou de l'impolitesse avec la franchise. Bonsoir, ma chère fiancée, d'autant plus chère que je sens que je puis vous perdre. Toujours votre dévoué, Frank. Saint-Alban, 8 juin. Frank, au nom du ciel, dites-moi ce que votre lettre signifie. Vous employez le langage de l'amour et pourtant vous parlez de séparation. Vous parlez comme si votre amour était une de ces choses qu'on peut modifier ou anéantir. Oh Frank, vous ne sauriez m'enlever mon amour. Vous ne savez pas ce que vous êtes pour moi, mon cœur, ma vie, mon tout. Je donnerais volontiers ma vie pour vous avec joie. Chaque battement de mon cœur est pour vous. Vous ne savez pas ce que vous êtes devenu pour moi. Chacune de mes pensées est à vous et l'a toujours été depuis cette soirée chez les Arlington. Mon amour est si profond et si puissant qu'il gouverne toute ma vie, mes moindres actions, du matin jusqu'au soir. Il est le souffle même, il est le cœur de ma vie, incapable de changement. Je ne pourrai pas plus changer mon amour qu'empêcher mon cœur de battre. Comment avez-vous pu suggérer pareille chose? Je sais qu'en réalité, vous m'aimez tout autant que je vous aime. Sans cela, je n'ouvrirai pas ainsi mon cœur. je serais trop fière pour m'abandonner ainsi. Mais je sens que la fierté est mal placée quand une erreur, un malentendu, peuvent signifier pour nous deux une souffrance de toute la vie. Je me bornerais à vous dire adieu si je croyais que votre amour a changé ou diminué. Mais je sais qu'il n'en est rien. Oh, mon bien-aimé, si vous saviez seulement quelle terrible souffrance c'est que la seule pensée de la séparation... Vous n'auriez jamais laissé cette pensée, même un seul instant, entrer dans votre esprit. La possibilité même en est chose trop affreuse pour y songer. Il n'y a qu'un instant, quand j'ai lu votre lettre dans ma chambre, j'ai failli m'évanouir. Je ne puis écrire. Oh, Franck, ne m'arrachez pas mon amour. Je ne puis supporter cela. Oh non, c'est mon tout à moi. Si seulement je pouvais vous voir, je sais que vous effaceriez d'un baiser ces larmes qui brûlent le cœur. Je me sens si isolée, si lasse. Je ne puis aller jusqu'au bout de votre lettre. Je sais seulement que vous parlez de séparation. Et je suis accablée, bien malheureuse. Maud. Copie d'un télégramme de Frank Ross à Miss Maud Selby au Laurier, Saint-Alban. Partirai à 8h15, arriverai minuit. 10 juin. Quelle bonté de votre part, mon cher vieux, de partir à toute vitesse et de traverser deux comtés à la minute, tout simplement pour me consoler et dissiper un malentendu. Certes, c'était ridicule à moi de prendre tant à cœur votre lettre, mais quand j'y ai lu le mot de séparation, cela m'a bouleversé si terriblement que j'ai été bel et bien incapable de raisonner sur n'importe quoi. Ce seul mot de séparation me paraissait écrit en lettres de feu d'un bord à l'autre de la page, à l'exclusion de tout autre mot. Aussi ai-je écrit à mon fiancé une lettre absurde, et voilà le cher garçon qui part à grandes enjambées, traverse le sud de l'Angleterre et arrive à minuit entièrement démoralisé. Comme vous avez été bon de venir, mon cher, je ne l'oublierai jamais. Je suis bien fâchée d'avoir été si sotte, mais vous devez avouer, monsieur, que vous avez été aussi un peu sot. Quelle idée ! Supposez que, quand j'aime quelqu'un, mon amour peut être modifié par la dimension de sa demeure ou le montant de ses appointements. Cette idée-là me fait sourire. Supposez-vous que le bonheur d'une femme dépend de ce fait qu'elle a une salle à manger, une salle de billard, un chien colis ou quelque autre des objets de luxe que vous avez énumérés? Mais ces choses-là ne sont que la parure de la vie, elles n'en sont point l'essentiel. Vous et votre amour, voilà les choses essentielles. Un homme qui m'aimera de tout son cœur, un homme que je puisse aimer de tout mon cœur. Oh, quelle différence cela fait dans la vie! Comme cela change toute chose, comme cela glorifie et embellit tout. Je me suis toujours senti capable d'un grand amour et maintenant je le possède. Allez donc vous figurer que vous êtes entré dans ma vie pour y apporter les ténèbres. Mais vous êtes ma vie. Si vous en sortiez, que resterait-il? Vous parlez du bonheur dans lequel je vivais avant de vous connaître, mais qu'il était vide. Je lisais, je jouais, je chantais, comme vous dites, mais quel vide! Tout cela, je le faisais pour plaire à maman, mais au fond, je ne voyais pas bien clairement pourquoi je continuerais à le faire. Alors vous êtes venu et tout a été changé. Je lisais parce que vous aimez la lecture et que je me plais à parler livres avec vous. Je jouais parce que vous aimez la musique. Si je chantais, c'était avec l'espoir de vous plaire. Quoi que je fisse, vous étiez toujours présent à mon esprit. Je m'efforçais, je tâchais de devenir une femme meilleure, une femme plus noble, parce que je voulais me rendre digne de l'amour que vous me portiez. J'ai changé, je me suis développée, perfectionnée en ces 3 derniers mois, plus que pendant toute ma vie précédente. Et maintenant, vous venez me dire que vous avez fait les ténèbres dans mon existence. Vous savez la vérité à présent. Ma vie est devenue pleine et riche, car l'amour remplit ma vie. Il est la clé de ma nature, il en est la base, la puissance motrice. Il me rend capable de tirer le meilleur parti de tous les dons, de tous les talents que je puis posséder. Comment pourrais-je vous dire tout cela si je ne savais pas que votre sentiment à vous est aussi profond ? Je n'aurais point donné l'unique, le grand, le seul amour de ma vie en échange d'une demi-affection de votre part. Mais vous ne commettrez plus l'erreur de supposer qu'aucune considération matérielle puisse agir sur notre amour. Et maintenant, ne restons pas plus longtemps dans le domaine des choses sérieuses. Ma chère maman a été fortement abasourdie par votre arrivée à minuit en coup de vent et par votre départ non moins précipité le lendemain matin. Mon bon chéri, c'était si gentil de votre part. Mais n'ayez plus de ces horribles humeurs noires et ne vous mettez plus en tête des idées de malheur, n'est-ce pas? Cependant, s'il vous faut des jours sombres, c'est le moment, car je ne saurais vous en permettre après le 30. Toujours à vous, Maud. Woking, 11 juin. Ma petite chérie, vous êtes absolument charmante. J'ai lu et relu votre lettre et je comprends de mieux en mieux combien votre nature est infiniment supérieure à la mienne. Et votre conception de l'amour, comme elle est sublime et désintéressée. Comment ai-je pu la méconnaître en croyant qu'aucune chose de ce monde pût un instant prévaloir contre lui ? Et pourtant, c'était justement le jaloux amour que j'ai pour vous, mon vif désir de ne pas vous rendre pire par mon fait, qui m'ont poussé à vous écrire en ces termes. Aussi, je ne me blâmerai pas trop sévèrement. Je suis vraiment content que ce nuage ait apparu, car le soleil n'en a ensuite que plus d'éclat, et il me semble que je vous connais mieux, que je vois plus profondément dans votre nature. Je savais que ma passion pour vous était l'essence même de mon âme. Oh, qu'il est difficile d'exprimer dans toute sa force l'émotion en employant le langage humain. Mais je n'osais espérer que vos sentiments fussent aussi profonds. J'avais peine à dire, même à vous, ce que j'éprouvais réellement. En un certain sens, par ce temps de low tennis, de thé de l'après-midi, une forte, forte passion, une passion comme on la rencontre dans des livres et des poésies, paraît déplacée. J'ai cru que vous seriez surprise, peut-être même effrayée, si j'allais vous dire tout ce que je ressentais. Et maintenant, vous m'avez écrit deux lettres qui contiennent tout ce que je vous aurais dit si j'avais laissé parler mon cœur. C'est l'expression de ma pensée la plus intime, et il n'y a pas un sentiment que je ne partage. Oh, Maud, il peut se faire que parfois j'écrive, que je parle à la légère, mais jamais, jamais, dans toute l'histoire du monde, il n'y eut de femme qui fût aimée plus passionnément que vous n'êtes aimée de moi. Quoi qu'il arrive, tant que le monde durera, tant que le souffle de la vie passera sur mes lèvres, vous êtes pour moi la seule femme. Si nous sommes ensemble, je ne me soucie nullement de ce que l'avenir peut apporter. Si nous ne sommes pas ensemble, c'est un vide que l'univers entier ne saurait combler. Vous dites que j'ai donné une impulsion à votre vie, que vous lisez, que vous étudiez davantage, que vous vous intéressez plus vivement à toute chose. Il vous eût été impossible de rien dire qui me donnât plus de plaisir que cela. C'est splendide. Cela me justifie d'aspirer jusqu'à vous. Cela tranquillise ma conscience pour tout ce que j'ai fait. Ce doit être honnête, puisque tel est le résultat. Je me suis senti si heureux, le cœur si léger depuis que vous l'avez dit. Il est quelque peu absurde que je me croie capable de vous perfectionner, mais puisqu'en votre charmante franchise vous le dites ainsi, eh bien, je ne puis que m'en émerveiller et m'en réjouir. Mais il ne faut pas étudier et travailler avec trop d'ardeur. Vous dites que vous le faites pour me plaire, mais cela ne me plairait pas. Je vais vous citer une anecdote qui contient un terrible exemple. J'avais un ami qui était grand amateur de littérature orientale, sanskrit et le reste. Il aimait une dame. Pour lui plaire, cette dame se donna une peine infinie pour s'assimiler ces sujets-là. En un mois, elle avait ébranlé son système nerveux et peut-être ne se rétablira-t-elle jamais. C'est impossible, elle n'était point organisée pour cela et cependant, elle s'en est faite la martyre. Je ne veux point dire par là qu'il vous faudra un effort pour mettre votre intelligence au niveau de la mienne, mais je veux dire que l'intelligence d'une femme est faite autrement que celle d'un homme. Une rapière coquette est chose plus belle qu'une hachette, mais elle n'est point du tout l'outil qu'il faut pour abattre des arbres. Rupton Hale, l'architecte, un des rares amis que j'ai ici-bas, a les opinions les plus déplorables au sujet des femmes. J'ai joué un round de golf aux lignes de Byfleet avec lui, mercredi dans l'après-midi, et nous avons discuté au sujet de l'intelligence de la femme. À l'en croire, elle n'aurait aucune lumière propre et ne ferait que réfléchir la lumière de quelque autre qui reste invisible. Il reconnaît qu'elles mettent une vivacité merveilleuse à s'assimiler les façons de voir de nôtre, mais que c'est là tout. Je lui ai cité quelques remarques fort pénétrantes que m'avait faites une dame à dîner. « Ce sont, dit-il, les empreintes laissées par le dernier homme. » Selon son absurde système, lorsque vous vous êtes entretenu avec une femme, vous êtes en mesure de reconstituer le dernier homme qui a fait quelque impression sur elle. « Et vous-même, dit-il, elle vous réfléchira sur la première personne à qui elle parlera. » C'était peu galant, mais c'était ingénieux. « Ma chère fiancée, avant que je finisse, permettez-moi de vous dire que si j'ai apporté quelque bonheur dans votre vie, vous en avez apporté bien plus dans la mienne. On eût dit que mon âme arrivait à la plénitude de l'existence le jour où je vous aimais. » Jusqu'alors, elle était si petite, si ratatinée, si égoïste. Et la vie était si dure, si stupide, si dépourvue de but. Vivre, dormir, manger, pendant quelques années, puis mourir, c'était si trivial, si matériel. Mais maintenant, il semble que les murailles étroites soient tombées en un instant, qu'un horizon infini se déploie autour de moi. Et tout me paraît beau. Le pont de Londres, King William Street, Epchurch Lane, les trois escaliers, le bureau, avec les calendriers et les tables luisantes, tout cela est devenu radieux, tout s'éteint d'une nuance dorée. Je suis plus fort, je marche d'un pas alerte, je respire plus largement. Et je suis aussi un homme meilleur. Dieu sait si la place manquait pour cela, mais je m'efforce de concevoir un idéal et de régler ma vie sur lui. Je me sens indigne d'être mis par vous sur un piédestal alors que ma vraie place serait un trou où l'on ne me verrait pas. Je suis comme l'homme de Browning qui soupirait à la vue des taches qui bariolaient sa peau, mais qui se réjouissait du duvet de cygne de sa dame. Sur ce, ma toute charmante petite dame au duvet de cygne, je vous souhaite bonne nuit avec l'amour que vous porte et vous portera toujours votre fidèle adorateur, Frank. Avec l'amour que vous porte et vous portera toujours votre fidèle adorateur, Frank. Samedi, 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 avec quelle impatience j'attends ce samedi où je vous verrai de nouveau. Nous irons ensemble dimanche entendre publier les bancs.